Titan Mag, T comme Titane, Dan comme Daniel, le magazine de Titane et Dan. Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique
au micro et de l'ami fidèle
Laurent
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Les passeurs de mots de Majolière viennent de fêter leurs 5 ans d'existence. Ils se rappellent leur coup de cœur pour Sophie d'Ivry et son premier roman, La Côte 400, aux éditions Les Allusifs. Sophie d'Ivry sera leur première invitée, les lecteurs ayant ressenti que cette auteure promettait de donner bien de la joie à la suivre dans ses écrits. L'histoire de La Côte 400... Eh bien, elle rêve d'être professeure, mais échoue au certificat et se fait bibliothécaire. Esselée, soumise aux lois de la classification de Devée, et à l'ordre le plus strict, elle cache ses angoisses dans un métier discret. Les années passent, elle renonce aux hommes, mais un jour, un beau chercheur apparaît, et la voilà qui remet ses bijoux. Bienvenue dans les névroses d'une femme invisible. Bienvenue à la bibliothèque municipale, temple du savoir où se croisent étudiants, chômeurs, retraités, flâneurs, chacun dans son univers. Mais un jour, ce bel ordre finit par se fissurer. Eh oui, La Côte 400 a été traduit en 5 langues. Une belle reconnaissance pour une journaliste au journal La Décroissance, qui décide en 2010 de se consacrer à l'écriture. Sophie continue dans sa voie désirée, écrit un second roman, Journal d'un recommencement, aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia en 2013. Ce roman donne un regard neuf sur une institution vieillissante, regard posé par la jeune narratrice sur l'Église catholique. Elle s'interroge sur les rituels qui réunissent les chrétiens tous les dimanches. Elle qui perçoit sa propre croyance, non pas comme un aveuglement, mais comme une énigme. À travers le journal de visites paroissiales, alliant introspection et observation teintée d'humour, Sophie d'Ivry parvient à dresser un tableau tout en subtilité sur la vie d'une communauté de croyants. Sa plume sobre, jamais complaisante, navigue avec bonheur entre différents registres pour nous livrer un récit inhabituel et bouleversant. En 2014, Sophie d'Ivry sort La condition pavillonnaire, toujours aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia. Ce livre reçoit une mention spéciale du prix Veplaire. Et c'est donc pour fêter les 5 ans des passeurs de mots que l'on retrouve Sophie d'Ivry à Majolière autour de son 3e livre. La condition pavillonnaire nous plonge dans la vie parfaite de Emma, avec mari et enfant dans sa petite maison. Tout va bien, et cependant il lui manque quelque chose. L'insatisfaction la ronge, la pousse à multiplier les exutoires, l'adultère, l'humanitaire, le yoga ou quelques autres loisirs proposés par notre société. Tous vite abandonnés. Le temps passe, rien ne change dans le ciel bleu du confort. L'héroïne est une velléitaire, une inassouvie, une Bovary. Mais pouvons-nous trouver jamais ce qui nous comble ? Un roman profond, moderne, sensible et ironique sous la condition féminine, la condition humaine. Écoutons Sophie d'Ivry répondre à Dominique Molin.
Bonjour Sophie d'Ivry, merci d'avoir accepté cet entretien pour la librairie Majolière et pour Couleur FM. Alors, on va parler essentiellement de votre 3e roman, La condition pavillonnaire. C'est l'histoire d'une femme qu'on va dire ordinaire, sans que ce mot ait quoi que ce soit de péjoratif. Vous commencez par évoquer quelques-uns de ses souvenirs d'enfance, puis vous passez à l'adolescence, et puis elle devient femme, mère, elle a des enfants, donc on n'en dit pas plus pour l'instant peut-être. Ce livre est publié par les éditions Noir et Blanc. A priori, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais sur la 4e de couverture, j'ai vu une femme velléitaire. C'est pas tout à fait la lecture que j'en ai eue. Vous avez quelque chose à dire là à ce sujet? Il me semble que c'est un peu rapide.
Une femme velléitaire, oui, non, c'est juste pour prévenir que chaque fois que le personnage va faire quelque chose, elle va abandonner. Comme c'est vrai que La condition pavillonnaire est en quelque sorte une réécriture de Madame Bovary, c'était aussi une des ressorts du fait que l'action qui est relativement faible, parce que moi je serais plutôt pour dire la fin du livre, c'est-à-dire que la première partie c'est les illusions, l'enfance, l'adolescence, le mariage. Après, la deuxième partie c'est l'empavillonnement, le propriétaire, la maternité, l'adultère. Puis la troisième partie c'est la vieillesse, la mort, il ne se passe rien. Je ne vais pas vous vendre le bouquin comme un roman d'aventure. Par contre, tout ce qui se passe est dans la recherche de plus en plus affolée de cette personne pour se remplir sa vie de sensations qu'elle n'arrive pas à éprouver par elle-même, parce qu'elle est construite sur du vide. D'ailleurs, je n'explique pas pourquoi elle est comme ça, en fait. Personne ne m'a jamais fait le reproche, mais elle est comme ça. Et du coup, elle passe son temps à être insatisfaite. Donc c'est insatisfaite, véléitaire, jamais contente... Mais ce n'est pas un trait de caractère, c'est un ressort dramatique plutôt. Dans le sens, comment faire pour que chaque fois qu'elle attrape quelque chose, que ce soit faire des enfants, se marier, devenir propriétaire, tout ce qu'elle attrape finit par se pourrir parce qu'elle n'arrive pas à mettre dedans quelque chose qui a du sens, ou de l'amour, ou de quelque chose d'entier. Donc elle va finir par, et c'est plus prégnant dans la troisième partie, qui est un peu Massacre à la tronçonneuse quand même, où elle va faire toutes les sortes de dérivatifs possibles, que ce soit... l'humanitaire, le yoga, la psychanalyse. Puis finalement, quand elle va un peu plus vieillir et mourir, peut-être qu'elle se rendra compte qu'elle est passée à côté de sa vie. Mais comme dans Madame Bovary de Flaubert, au fond, Madame Bovary aussi s'affole et cherche un jour dans la religion, un autre jour dans la consommation. Une autre fois, elle va aller embrasser Berthe et puis la repousser juste après, sa fille. Sur le personnage,
c'est ça. Donc vous nous avez raconté le livre, donc je ne sais pas si l'entretien va durer très longtemps.
C'est fait, oui. L'histoire, c'est comme un porte-manteau. Après, on peut mettre des choses dessus. Mais...
absolument. Voilà. Alors, si vous voulez, on va démarrer l'entretien par la lecture du premier paragraphe. J'aimerais que vous fassiez quelques commentaires. D'une histoire commencée avant nous et qui se continuera tant qu'on pourra tenir des cadastres et des conversations, édifier des murs, creuser au bulldozer, cultiver un potager, élever des enfants, tant qu'on pourra payer du géomètre, de l'ingénieur, de l'ouvrier, tant qu'il sera possible de se réunir chez un notaire pour imprimer un acte de vente en 4 exemplaires dans un bureau climatisé, d'une histoire qui se continuera après nous tant qu'il y aura du couple pour y résider, s'aimer, nettoyer, bricoler, recevoir, vivre en somme, tant qu'ils seront assez fertiles pour se reproduire, engendrant une famille de plusieurs membres, et dans cette famille, toi, la femme, M.A. Ce paragraphe, c'est pour nous donner quel type d'indication que l'histoire de Emma, elle s'inscrit dans une continuité?
Oui, c'est ça. C'est vrai que pour moi, c'était important de commencer ainsi, parce que je voulais dire plusieurs choses importantes. C'était d'une histoire commencée avant nous. C'est évidemment... dire que c'est la condition humaine, quoi. C'est pas l'exceptionnalité que je cherche. Je cherchais pas l'exceptionnalité dans ce livre, je cherchais plutôt l'ordinaire, le commun, mais dans le sens de commune humanité. Et dans ce sens-là, et dans le sens c'est commencé avant nous, parce que, pour le dire assez froidement, le personnage de Emma ou de son mari, François, ne sont que des marionnettes dans un système industriel, on pourrait même dire. Leur vie s'inscrit dans un cadre, en tout cas. Dans un cadre urbain, dans un cadre de quelles études on fait, de comment on a été élevé. Voilà. Il y a pas de, ils ne sont pas des personnages qui se créent tout seuls et qui sont une pure psychologie. Ils sont déterminés par les désirs qu'ils ont, sont déterminés, voire conditionnés. Et c'est une histoire qui se continuera après nous, dans le sens où je fais un focus sur une vie. Bon, c'est vrai que c'est quand même un bouquin qui se passe des années 60 aux années 2025, même si à la fin ça reste très elliptique. Mais au fond, ça se continue, puisque jusqu'à la preuve du contraire, on continue à être dans ce système industriel-là. Mais bon, c'est évidemment pas fait de manière. On est tout de suite avec le personnage et ça s'arrête quand le personnage s'arrête. Mais je voulais commencer par ce nous, pour dire que pour pas être dans un bouquin où on va pointer sur une personne en particulier. Même si le nous passe très vite en tu, puisqu'en effet, l'originalité d'écriture du livre, c'est que c'est écrit à la deuxième personne du singulier. C'est ça qui était un choix.
Vous avez dit, j'ai voulu réécrire Madame Bovary.
Oui, mais alors le problème, c'est que je ne voulais pas réécrire que Madame Bovary, sinon ça aurait été trop simple. J'étais un peu prise, c'était une écriture assez difficile, par rapport à la Côte 400, par exemple, dans laquelle j'étais venue, où là, l'écriture de mon premier roman avait été plus dans une espèce de... d'inconscience ou d'innocence, bah, j'avais travaillé évidemment, mais c'était pas aussi compliqué, on va dire, que dans le troisième roman, surtout après tout le travail d'écriture très très difficile que j'ai fait dans le deuxième livre, Journal d'un recommencement. J'avais quelque chose à dire sur la condition pavillonnaire, je crois que je voulais dire des choses sur ces pavillons comme ça qui s'entassent et qui disent quelque chose pour moi de l'existence, mais parce que j'avais quelque chose à dire de l'existence, je pense, tout simplement. Mais j'étais aussi influencée par Pérec, les choses. ce côté les objets, la manière de la prégnance des objets, la prégnance des voitures, la prégnance des conversations sur les objets, le matériel dans nos vies. Et je voulais aussi, je trouvais que le mythe de Madame Bovary a été fécond en fait pour moi. Il m'a permis de mettre la main sur une histoire, de mettre la main sur une psychologie. Mais j'étais aussi influencée par le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui décrit des choses sur la condition féminine qui ne sont pas décrites très rarement en littérature et que je voulais importer dans la littérature. Et j'étais aussi très influencée par Une vie de Maupassant. Et puis je voulais aussi que son bouquin qui soit relativement... pas dépourvu d'humour, même si vous n'êtes pas mort de rire à toutes les pages. Mais il y a quand même des petites bombes dans les phrases, beaucoup d'ironie. Voilà. Mais c'est vrai que le bouquin de Flaubert est très... c'est un grand chef-d'œuvre de la littérature française, mais il est très fécond pour penser. Et je trouve qu'en fait, la psychologie de Madame Bovary, même si évidemment Madame Bovary est beaucoup plus... Bon, entre nous, elle est quand même beaucoup plus opprimée que les femmes d'aujourd'hui. Elle ne peut pas signer les chèques, tout ça, ça n'empêche pas de s'endetter, mais elle a fini. Mais finalement, le même ressort, c'est le ressort de... Elle a ce vide, elle a cette béance en elle, qui fait qu'elle va tout le temps, tout ce qu'elle... Elle va chercher, demander aux autres, et notamment aux hommes, chez Madame Bovary, de la remplir, de la remplir de sensations. Voilà. Comme on dit dans les offices de tourisme, vous savez, venez en Savoie, des sensations toujours plus pures, vous allez vivre des choses authentiques, tout ça, faire des expériences. Donc, mon personnage est quelqu'un qui cherche à faire des expériences tout le temps et qui pense que le bonheur, c'est on va cocher les cases et j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et sauf que ça ne marche pas, parce qu'il manque, je pense, un ressort. En même temps, ça marche aussi comme ça. Comment ça marche, je ne sais pas. Hein, mais elle fait tout comme il faut. Elle fait exactement tout comme il faut.
Oui.
Mais ça ne marche pas.
On reviendra là-dessus, je pense. La condition pavillonnaire, le titre, c'est vous ?
Oui, c'est moi.
Oui, je suis un petit peu surpris, je me trompe probablement, mais le mot pavillon, pour moi, c'est un mot un petit peu... On ne l'utilise plus trop depuis les années 80, c'est volontairement que vous l'avez utilisé ? Il me semble qu'on ne parle plus trop de pavillon aussi.
La condition de la villa, ça ne faisait pas trop.
Donc... Oui, d'accord. Ouais. D'accord.
Non, mais le titre est venu comme ça. Non, je ne sais pas, moi qui suis née en pavillon, maison individuelle, je trouve que ça sonnait bien, quoi. Mais je voulais faire un titre de façon assez lourde, assez... le genre de titre qui fait ma stock. Mais là-bas, je voulais faire un bouquin beaucoup plus gros. Un gros bouquin qui fait un peu comme un pavé. Pour arrêter, je voulais faire un bouquin qui arrête, qui soit lourd. Heureusement, il est quand même un peu plus digeste que le projet de départ.
Alors, je ne sais pas, la condition pavillonnaire, tout de suite, condition humaine, mais j'ai surtout pensé à un traité de sociologie.
Oui, il y a ce côté-là. Après, c'est vrai qu'on m'a reproché aussi ce côté, le titre, qui est un peu sociologique. Pourtant, c'est ce qui ça permettait de dépersonnaliser, justement. Dire que... Et puis, je ne voulais pas que ce soit un rapport avec la femme aussi. Parce que moi, c'est un bouquin qui, évidemment, l'héroïne est une femme, mais je ne voulais pas qu'on puisse dire c'est un roman de femme, c'est un roman sur la femme, tout ça. Donc, je voulais un titre qui soit plus universel. Mais évidemment, de toute façon, dès qu'on s'intéresse à autre chose que soi, on est traité de sociologue, parce que du coup, dès qu'on analyse les choses, la manière dont les choses sont sur nous, la manière dont on est influencé par la société, alors que la société, c'est autant les êtres humains que... Ce que j'essaie de mettre dans mon bouquin, moi, c'est les phrases qui disent, les phrases qui sont entendues, sont autant des influences pour moi que la manière dont l'autoroute qui va de Lyon à Chambéry lui permet de construire sa vie. Elle est autant construite parce qu'il lui est permis techniquement de s'installer à Chambéry, de prendre l'avion, de prendre le train, aller faire ses études à Lyon, c'est possible parce que sociologiquement, on va dire même anthropologiquement, il y a ces choses-là qui sont effleurées, j'en fais pas des tonnes, mais c'est aussi parce qu'elle est construite aussi par ses parents qui lui disent certaines choses morales. Mais pour moi, j'ai voulu mettre un peu au même niveau. Mais il y a deux pages, deux, trois pages qu'on m'a reproché qui sont les pages sur la voiture, qui sont peut-être plus sociologiques.
Il y en a quatre ou cinq.
Alors, récompte-les, je suis sûre qu'il n'y en a que trois.
Je ne sais pas si je vais les récompter. Voilà. Non, il y a plus de trois.
Parce qu'on dit, quand on dit sociologique, c'est souvent parce qu'il y a des descriptions qui arrêtent la narration. Alors que finalement, ce que je voulais faire en écrivant ce livre, c'était aussi une espèce d'archéologie du futur, d'expliquer qu'est-ce qu'est la condition humaine au XXIe siècle. Moi, quand je lis la littérature du passé, c'est pour savoir comment étaient les êtres humains avant, comment ils faisaient avec les mêmes. Ils étaient pareils que nous, sauf qu'ils avaient pas, ils étaient confrontés différemment dans leur corps, dans leur chair, dans leurs âmes, aux problèmes de leur temps. Voilà. Moi, je me suis toujours dit que ça serait bien, dans 200 ans, je sais pas, bon, c'est un peu prétentieux, mais les gens au moins sauront ce que c'est qu'une voiture. Donc je l'écris, une voiture, ça roule avec de l'essence. Voilà. Parce que quand on dit la scène du fiacre, par exemple, dans Madame Bovary, moi je sais pas ce que c'est qu'un fiacre au fond. Moi, j'aurais bien aimé que Maupassant ou Flaubert fasse deux pages sur le fiacre. Je vais pas aller lire des traités d'histoire sur le fiacre. Voilà. Mais en fait, c'est des pages comiques, mais personne ne l'a vu. Donc...
Excuse-moi pour mes conneries, mes amis et leurs ennemis, mais on m'a dit au paradis, tout le monde est très gentil, on chante pas tous les jours une chanson d'amour. On s'endort dans nos conforts et dans le gras de notre corps. Et oui, tout le monde se touche les fesses quand il est seul dans son lit. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. Les bons souvenirs, c'est le paradis de nos esprits. Une bêtise, c'est se retirer quand elle est bien mise. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. La cigarette est mauvaise pour la voix, l'alcool est mauvais pour le foie. Les parfums tuent les bonnes odeurs, les ordinateurs tuent les facteurs. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour.
Couleur FM 97.1 avec Sophie Divry. Nous venons d'entendre Arnaud dans Chanson d'amour de l'album Future Vintage.
Je vous rassure, hein, c'est 3 ou 4, peu importe, page sur l'automobile. C'est pas un article de Wikipédia, oui, ça n'a rien à voir.
C'est prévu, beaucoup plus ironique.
Écrit,
oui, moi, c'est vrai qu'il y a toujours des voitures partout. Enfin, je sais pas ça parce que je suis venu en voiture jusqu'ici, mais c'est parce que moi, j'aime pas faire une littérature, même si j'écris énormément. Pour moi, là, ce qui compte, ce qui génère un livre chez moi, c'est une rencontre avec une forme qui va rencontrer une problématique existentielle. Faut dire, je suis en rapport avec le monde. Je pense que la littérature, là, pour emprunter le monde de nous, nous sommes le monde. Emprunter nos problèmes existentiels, c'est emprunter le monde. Du coup, il y a des voitures partout, puis quand on ouvre des bouquins, il n'y a jamais plus de voitures dans les livres. Ça, c'est... Voilà, donc là, j'ai mis des voitures dans les livres. Comme dans mon prochain livre, je vais mettre des factures, parce qu'on est tout le temps en train de payer des factures. Et quand, chaque fois qu'on ouvre un livre, il n'y a plus de problème de factures. C'est formidable, la littérature.
Oui, elles passent sans permis, d'ailleurs, hein, dans les
livres. Oui, tout à fait.
J'aimerais bien quand même on revienne sur cet usage de la deuxième personne du singulier, là, ce tu, qui est l'essentiel de la forme du livre. C'est quoi ce tu? Il y a un petit peu de distance. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, y compris à la deuxième lecture, qu'il y a quand même une certaine tendresse de la romancière pour son personnage.
Alors, c'est difficile à moi de dire qu'est-ce que le tue. Je serais contente tout à l'heure que vous me fassiez part de vos manières dont vous avez vécu la lecture en général du livre et puis ce tue, parce qu'il y a des gens que ça arrête. Mais ça, je veux dire, tout le monde. Ça peut arrêter les gens, je comprendrais. En fait, pour moi, c'était juste une manière d'arriver à écrire le livre. J'ai commencé à écrire le livre par des descriptions. Je voulais beaucoup d'écrire, j'étais dans une phase assez nouveau roman, assez péricienne, d'écrire. J'ai viré pas mal de descriptions après, j'en ai gardé notamment quand elles avaient du sens, comme la machine à laver le linge, qui fait partie du cycle de la rentrée, ou la voiture, parce que ça s'arrête, il faut faire un focus, on s'arrête justement pour prendre du recul et essayer de regarder ça avec des yeux d'extraterrestre. Et à force de décrire, j'ai sorti un personnage. Mais j'arrivais pas à écrire, à voir le personnage. Au début, il y en avait trois, il y avait sa fille, la mère, la grand-mère. Et de toute manière, je n'arrivais pas à écrire. En jeu, c'était pas du tout le projet, c'est pas du tout un bouquin personnel. Je n'arrivais pas à écrire en elle parce que je savais que ça allait être un bouquin relativement réaliste, vu tout ce que j'ai dit auparavant. Mais vous voyez, vous écrivez un bouquin réaliste en elle, en plus il y a du passé simple, ça fait très vite classique, vous voyez. En plus, dans une phase, le passé simple c'est ringard, tout ça, parce que Barthes a dit beaucoup de bêtises là-dessus, style Barthes, il faut pas passer simple, c'est ce genre d'interdit comme ça qui peut m'influencer quand on est un premier romancier, mais. Mais non, je pense mon fils, j'ai envie de passer simple. Mais je ne pouvais pas l'écrire en L, ça aurait été trop distant. Il n'y a plus grand-chose, hein, si on enlève le jeu et le L, il reste le tu. Et ça a très bien fonctionné. Je ne savais pas si j'allais le garder, notamment quand on est passé au vous, quand oui. je parle, m'adresse oui. au couple, François, mmh. vous, et quand on met le vous à la troisième personne du passé simple, mmh. ça commence à être un petit peu hard. Mais du coup, j'ai le menu présent, la page du passé simple, ça passe très bien. Souvent, les réviseurs sont un peu arrachés les yeux parce que je mets le présent souvent à la place du passé simple. De toute façon, je mets du futur, puis je reviens. Tout ça. Voilà. En fait, ça va très bien. L'important pour moi, c'est que la phrase soit claire. Et je n'ai pas l'impression d'avoir écrit quelque chose de difficile à lire. Mais ce « tu », je pense, pour répondre à votre question, qui fait à la fois manière de prophétie, « tu vas faire ça », et ça gèle. Ça gèle le côté, voilà, tu auras la vie parfaite, tu vas faire des bonnes études, tu vas avoir des jolis enfants, tu auras un bon mari. Donc c'est glacial. Et à la fois c'est moi, dans le sens que je l'ai écrit avec ce côté, la vie que je peux avoir, la vie que je m'adresse à moi-même. Bon, au fond, quand on écrit, on s'adresse aussi à soi-même, tous les personnages sont un peu soi. Et ça n'empêche pas la tendresse, parce que c'est une adresse à quelqu'un. Voilà. Et donc il y a des moments donnés où elle est un petit peu heureuse, parce qu'elle est quand même heureuse de temps en temps, cette dame.
Ah, mais je pense voilà. que oui.
Au début, quand elle a son président. Et donc ça a fonctionné relativement, mais c'est vrai que j'ai au fur et à mesure du livre, je me suis adoucie au fur et à mesure du livre pour que le personnage soit, en tout cas l'expérience de lecture, l'expérience humaine, tout ce que je transcris d'elle, de nous, ces passages où elle va rêver, elle va être amoureuse, elle va penser à son amour, à son amoureux dans le train, qu'on soit avec elle, voilà. Parce qu'au début j'étais partie sur un rapport beaucoup plus politique, beaucoup plus dénonciateur. Heureusement, au fur et à mesure, j'ai mis dans le livre beaucoup de choses d'un substrat humain, de comment on vit la vie, comment le temps passe, comment on aime, on désaime. Voilà.
Je reviens sur l'écriture, justement cette question des temps. Vous avez parlé du passé simple. Mm-hmm. Moi, j'ai surtout vu l'alternance de présent et puis l'imparfait. L'impression que ce présent, c'est quand vous faites un zoom sur tel ou tel épisode de sa vie. Mm-hmm. Et puis l'imparfait, c'est quand vous insistez sur le côté répétitif des gestes quotidiens. Est-ce que ça a été votre façon de faire?
Oui, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, quand on arrive dans une scène, on arrive dans la scène, donc on peut mettre au passé simple, si on vient de l'imparfait. Mais ça fait tout de suite un effet, quand on est au passé simple, on a l'impression que c'est « Bonjour les enfants, vous racontez une histoire ». Je pense que vous avez raison. Mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas relu le livre. Donc si vous me dites que c'est ça, ça doit être ça. Voilà. Mais non, je ne suis pas narcissique au point de relire mon livre toutes les soirs. Mais, et puis à la fin, je peux vous le dire très sincèrement, parce que les auteurs, nous, on n'est pas... D'ailleurs, contrairement à certains auteurs, je ne pense pas qu'il faut croire qu'on invente tout seul. La fin du livre est donc, non seulement parce qu'elle se passe dans le futur, moi, je l'ai écrit en 2010, et là, elle meurt à 75 ans en 2025. Donc, comme ce n'était pas le but de faire la science-fiction, de toute manière, je n'allais pas être très précise. Et puis, c'est la vieillesse, donc je voulais aller vite. Toute la fin est au futur. Et donc, le tu au futur, ça fait vraiment, tu vas mourir, quoi. Tu mourras. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris à Pérec, dans la fin des choses, parce que toute la coda de Pérec, parce que donc la fin, est également au futur. Et ça a un effet de glacial aussi. Voilà. Et comme là, il y a déjà beaucoup d'émotions, parce qu'on est avec le personnage depuis longtemps, et qu'il y a une tendresse qui s'est créée, et puis à ce moment-là, en plus, son système un petit peu égoïste s'est effrité, et qu'elle se rend compte qu'elle aurait pu aimer plus. Voilà, là je me suis mis le futur. Je crois que je l'ai mis aussi à d'autres moments. Voilà. Mais c'était assez compliqué pour moi de me rendre compte en fait, que selon... entre les règles, entre ce qu'on veut produire... Est-ce qu'on se comprend soi, comment on se relie? Et puis on parlait de ce que l'éditeur dit en disant « Mais là, pourquoi c'est au futur, ça ne devrait pas ?» Alors que ça fait des effets qui peuvent être très très forts émotionnellement, le changement de temps, la différence de temps. Et quand on est dans le présent, ben, on est dans une scène qui est au présent, donc qui peut être vécue, ça se passe dans les années 80, par exemple, beaucoup de scènes se passent dans les années 80, mais qui peut être vécue du coup pareillement aujourd'hui.
Les objets, c'est important pour vous? Dans ce réfrigérateur avec ses magnets sur la porte, et puis il y a l'horloge de la cuisine dans la chambre d'étudiante. Bon, vous avez parlé de l'auto, il y a le lave-linge, enfin, il y a une présence quand même assez réitérée d'un certain nombre de choses matérielles.
Bah oui, mais c'était ça en fait, la base, c'est que l'impression que les objets prennent trop d'importance dans nos vies, ou ce côté comment se débarrasser des objets, quoi. Comment ne pas être envahi par les objets, ou comment accepter que les objets finiront par nous survivre alors que nous... Vous savez, les objets ont beaucoup ennuyé les auteurs au XXe siècle parce que dans la société de consommation, notamment des nouveaux romans, Robrier qui dit « là, les choses sont là, à beaucoup de bouquins comme ça qui sont très, les choses sont là, on passe son temps à regarder ce verre comme dans La Nausée de Jean-Paul Sartre, et puis on voit ce verre qui est là, et puis et donc c'est quelque chose qui donne la nausée, ce côté plus dans la condition pavillonnaire, le côté la voiture, il faut prendre la voiture, et est-ce qu'il y a de la place pour se garer, et puis la cafetière, il y a toute une histoire de la cafetière à travers mon bouquin, ou est-ce que tu as lavé tes chaussettes, il faut laver les chemises. Et moi je trouve qu'en général dans la vie ça prend trop de place, les objets. C'est normal, je suis intellectuelle, moi j'ai tendance à pas aimer, c'est très bourgeois ce que je dis, mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir mettre les objets à distance et à vivre dans un monde où il n'y aurait pas de contingence. Ça, c'est un biais. Mais ce que je voulais dire, pour ne pas juste parler d'où ça vient psychanalytiquement, c'est que ces objets ont une influence et font partie des conversations et font partie de... là, quand elle a un adultère, elle va se retrouver à un motel, elle va se retrouver dans la voiture, ils vont se retrouver dans un TGV. Tout ça structure. De même que c'est parce qu'il y a une fusion dans son entreprise que finalement l'adultère va s'arrêter. Et du coup, je voulais qu'il soit là, et je voulais que le rapport, des fois, un petit peu nauséeux aux objets qui nous envahissent trop, soit là, mais que, finalement, j'étais assez contente qu'il n'y soit pas trop non plus. Dans le sens que ça peut être un peu désespérant, sinon que les objets soient là sans qu'on leur donne un sens. Moi, j'ai essayé que les objets, dans la voiture, c'est drôle, dans le lave-linge, c'est le cycle de la vie. Voilà. C'est la rentrée, elle fait la lessive de la rentrée après les vacances. Et tout reprend sa place. Voilà. Alors qu'elle, elle voudrait que change tout le temps, tout le temps on change, que tous les jours il y a un événement qui arrive dans sa vie. Et pareil pour l'horloge dans la cuisine, c'est un moment où elle est amoureuse de celui qui deviendra son mari, et cette horloge a du sens par rapport à ça. Je pense qu'en fait, contrairement à d'autres, j'arrive pas à ne pas vouloir mettre de sens dans les objets. Mais c'est vrai que j'ai un rapport aux objets particuliers, parce que dans mon prochain bouquin, qui est un peu écrit en réaction contre celui-là, qui est quand même un bouquin assez... où les objets sont plutôt plus forts que l'être humain. Dans mon prochain bouquin, j'ai mis les objets, au contraire, se mettent à parler, commencent à avoir une vie. Par exemple, comme c'est une histoire d'une nana qui est pauvre, qui cherche de l'argent, problème pour payer ses factures, elle veut vendre son bouquin, elle veut vendre des trucs qu'elle a chez elle sur le bon coin. Vous voyez, c'est un rapport avec la vraie vie. Du coup, elle va vouloir vendre son grille-pain, mais le grille-pain n'a pas d'accord, donc il va commencer à protester. Il parle en vers de Racine, cela dit, parce qu'il est quand même... C'est un grille-pain d'un écrivain, donc il parle en vers de Racine. Et la bouloir à côté, la bouloir, lui, qui a eu chaud parce qu'elle a failli passer, mais c'est le grille-pain qui est passé, lui répond en disant « Calme-toi ». Mais je pense qu'en effet... Et pareil pour le frigo, la porte du frigo sur laquelle commence la condition pavillonnaire, c'est quand même un pensif aujourd'hui. Je trouvais qu'il aurait été dommage que la porte du frigo ne soit pas dans les bouquins du 21e siècle, parce que quand même, ça dit beaucoup de choses, une famille, d'une maison, une porte de frigo. Non seulement parce qu'en plus ça veut dire des choses techniquement, hein, au 19e siècle il n'y avait pas de porte de frigo, mais en plus ça veut dire des choses sur qu'est-ce qu'on reçoit comme un carte postale, est-ce qu'on les change souvent, etc. Mais ça a du sens parce que ça ouvre le livre, voilà, aussi.
Il y a une longue phrase, je trouve que vous êtes dur avec Emma, vous parlez, elle est devenue mère et vous parlez carrément de dévoration, hein, puisque c'était cela fonder une famille, devenir reine et esclave à la fois, avoir constamment le souci des autres, adultes comme enfants, connaître leurs besoins, leurs horaires, mettre son corps au service du bon fonctionnement de la machine familiale, pieuvre dévorante dans laquelle toute la personne de Emma s'était faite avaler, toute sa personne manipulée par les tentacules de la bête, qui tour à tour demandait un biberon, un conseil, où est passé le puzzle, qu'est-ce qu'on mange ce soir ma chérie, tant et si bien qu'il fallait une carie douloureuse pour t'obliger à partir en urgence chez le dentiste, déléguant exceptionnellement la préparation du dîner au père, lui qui t'aidait si gentiment. C'est terrifiant, non?
C'est ça, je sais pas, vous êtes mariée? Comment vous êtes terrifiée, votre femme? Non, il faut vous lire différemment. Il y a délégant exceptionnellement la préparation du dîner au père, lui qui t'aidait si gentiment.
Oui.
Comme on dit, quand les hommes disent, tu veux que je t'aide? Moi, je suis pas un sous-pays sous-développé. Mais c'est en fait, je voulais dire la phrase de la pieuvre familiale qui avale la mère de famille.
Non. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon,
c'est pas dur, ça dit la vérité, je pense, sur l'expérience de...
D'accord.
Mesdames, venez à mon secours. Dans le sens où la responsabilité de la gestion du foyer, malheureusement, est toujours ou parce que dans toute organisation, il faut que quelqu'un soit responsable, ou parce que c'est ataviquement comme ça. Et sur la femme, sur la responsabilité de qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qui est-ce qui va s'occuper d'eux, qui au final, qui pose la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est vraiment la femme. Et dans cette période de sa vie, comme ça, où elle fait ses enfants, où elle a son mari, qui de toute manière travaille de 10 heures par jour, et du coup, elle est dépossédée d'elle-même. Dans le même passage, il y a aussi une espèce de puissance qu'elle recevra ça, qui est très bien expliquée par Simone de Beauvoir en Deuxième Sexe, c'est-à-dire que cette dépossession de soi et ce sacrifice permanent et cette dépense d'énergie qu'on donne aux autres, je m'occupe de mes enfants, je recoue la chemise de mon mari, je m'occupe de tout, je maîtrise tout, ça donne une illusion de puissance. En fait, c'est la seule puissance pendant très longtemps qu'on a laissé aux femmes. Du coup, ça fait après, finalement, après, des fois, les névroses de la ménagère. Ou, comme elles n'ont pas le pouvoir dans la vie publique, même si maintenant on a quand même mieux, et Beauvoir l'explique très bien. Comme, en fait, elle va prendre énormément de pouvoir dans la vie privée et va devenir absolument la fée du logis, pas du tout. En fait, une sorcière abominable, elle va faire souffrir son mari par la violence rentrée que ça représente. Ouais. Bon, là, elle n'est pas là, elle va juste se tromper, mais ça, c'est aussi parce que l'adultère, c'est le grand moteur du roman. L'adultère, ça marche bien. Et Flaubert est super fort parce qu'il arrive à faire deux adultères. Et ça, c'est difficile de faire relancer l'adultère après là. Moi, au bout d'un, je fais ouf. C'est super dur d'écrire les scènes d'amour. Mais là, voilà, c'est ce genre de phrase que je trouve importante pour expliquer ce que c'est que la condition pavillonnaire de la femme des années 80, enfin, même avant et après, mais de cette période de sa vie, voilà, quand elle a 35 ans, 45 ans, et qu'elle est dans cette gestion comme ça, mais qui est à la fois une pieuvre englobante, dangereuse, et après. Quand elle va, par exemple, se baigner, il y a ce passage aussi où elle se baigne, et là, elle retrouve son corps. Mais sinon, le corps est englouti par...
Les vacances, oui. Mmh.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordage, et plus le temps tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Je t'aime.
Couleur FM 97.1 avec l'invitée Sophie d'Ivry à Majolire. De l'album 15 ans d'amour, nous avons entendu Jacques Brel dans la chanson des vieux amants.
Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup. Vers 6 heures, tu pénètres dans la cuisine, tu tranches des oignons, tu fais fondre du beurre, tu épluches les carottes, tu haches, tu farcis, tu sales, tu poivres, tu ébouillantes, tu pèles et épépines, tu bouquets garnis. Pas mal, non? Le verbe bouquet garni, vous ne l'avez pas signalé à Alain Rey, ça serait pas mal, je crois. Oui, non, c'est un peu la même chose.
Mais
non
là, c'est dans le même passage, c'est dans le même passage du livre. C'est vrai que dans le livre La condition pavillonnaire, c'est dans la deuxième partie que tout, pour moi, est le plus important, les choses sont installées. Et donc là, c'est dans la scène du repas de réception, voilà. On fait la cuisine. Et là, c'est vrai, très méchant, très vrai, où en effet, l'homme est là un peu derrière, mais c'est elle qui fait à la fois tout le repas, qu'elle s'en mange, etc. Lui, il va passer le sel à enlever le vin. En même temps, elle est très contente parce que sa femme reçoit. Mais à la fois, c'est une symphonie. Elle est très heureuse de faire ça. Voilà. Il y a cette puissance-là. Mais oui, j'écrivais ça. Et puis, en fait, comme bouquet garni finit par un S, ça fait comme si j'avais mis le S, vous voyez, du présent. Voilà. Et c'est assez rare, en fait, dans le bouquin, ce genre de... Il y a des innovations, des trouvailles comme ça dans le bouquin. Mais de comme ça, en substantifiant un verbe, c'est... Je suis contente que vous l'ayez cité.
Alors, puisque vous avez parlé de l'invitation des amis, d'une espèce de rite, de cérémonial, et puis en même temps, il y a un enjeu. On a l'impression que pour le couple, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ça va être une grosse difficulté pour le couple.
Oui, bah, c'est à la fois la preuve du repas bourgeois, en sens on invite des amis, on ne va pas au resto, on ne va pas au cinéma, on ne va pas en boîte, oui, par rapport à d'autres phases de la vie ou d'autres classes sociales. On reçoit, parce qu'il y a des enfants, tout simplement. Et donc, c'est à la fois ce qu'on demande à la femme, à la fois ce que l'homme est content de montrer, de lui, de sa réussite sociale. Et pour elle, pour revenir au ressort psychologique, c'est qu'elle se dit « Ah, ben c'est quelque chose dans le calendrier. Voilà, ce soir-là, il se passe quelque chose d'un peu différent. » Donc, elle espère qu'elle passe une bonne soirée, même si à un moment donné, elle a un peu marre de préparer tout ça. Mais... Et du coup, il y a une déception le lendemain. Voilà. C'est-à-dire, dans la manière dont j'ai écrit le livre, c'était, je crois, je sais, et le lendemain, il y avait toujours un goût de déception. Ouais. Et parce qu'elle est construite sur une faille, et la faille s'agrandit, parce qu'il ne suffit pas de partir en week-end ou recevoir des amis pour donner du sens à sa vie.
C'est la même déception qu'au retour des vacances.
Voilà, absolument. Et sauf que le moment, ça devient de plus en plus aigu, et puis avec, évidemment... Le fait que son couple, c'est un couple normal, mais si elle n'est pas capable de se sentir heureuse, eh bien, elle finit par se lasser un peu de son mari, tout ça. Et là, vient un jeune cadre dynamique.
Pendant ses vacances, c'est quand même la seule occasion où elle se laisse aller à elle-même. Son mari s'occupe des enfants, etc. etc. et elle s'occupe d'elle-même, de ses baignades, du soleil. On a l'impression qu'elle est heureuse, non?
Oui, mais c'est toujours le contraste qu'on a, je pense, dans ce genre de conditions féminines, c'est qu'il y a des passages où on est complètement livré à la pieuvre familiale, même si on peut en recevoir certaines rétributions symboliques, et puis les passages où, tout à coup, on va se retrouver soi-même, en prenant un bain, en parlant avec une copine. Mais du coup, la différence fait que ça peut créer des insatisfactions quand on est obligé d'arrêter les vacances, quoi. En fait, c'est un peu un roman sur la frustration sexuelle. Même Madame Bovary, c'est pareil. En fait, quand on relit Madame Bovary avec l'esprit mal tourné, on se dit... C'est le mauvais mariage, en quelque sorte.
Parlez-nous de ce tableau qu'ils ont acheté pendant les vacances.
Mes parents n'étaient pas contents.
Laure Cordine.
Que... en fait, il y a beaucoup de clichés dans le livre, dans le sens, elle fait même... Ce que je voulais prouver, c'était... Ce qui m'effrayait, moi, quand j'étais jeune, même toujours maintenant, ce qui nous effraie tous, c'est qu'on va tous mourir, bien sûr, mais que la manière dont... La vie petite bourgeoise de la blanche occidentale que je suis, qui est sûrement une des personnes qui vit le plus confortablement, hein, par rapport même à Louis XIV, aujourd'hui on a l'eau courante, l'électricité, j'ai mal, je vais me faire soigner, etc. Mais n'empêche que ce qu'on me propose, c'est les études, le mariage, le travail, la retraite, tout ce que tous les parents voudraient que leurs enfants fassent. Faire une vie comme ça sur les rails, très bien. Je voulais que dans mon bouquin, elle fasse tout comme il faut. Elle fasse tout ça, mais sans rien de plus, vous voyez. Du coup, si on met que ça, et bien là, on se dit, bah, oui, mais en fait, non. C'est pas ça qui suffit. Et les parents ne seraient pas contents si leurs enfants font tout, mais ne sont pas heureux, font tout, mais n'y mettent pas de sens, fassent tout, mais ne soient pas ou un minimum créatif, ou un minimum altruiste. Ou... Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre cette vie? Et qu'on passe finalement tous, et moi-même, par les mêmes étapes. Parce que je n'ai pas voulu stigmatiser, malgré mon côté méchant, une vie ou une autre. Qu'est-ce qui fait que, malgré toute cette vie, toutes ces étapes... qu'on passe plus ou moins tous, que ce soit le mariage ou les études à côté, il y a quand même le fait qu'on se sente bien dans sa vie, on se sente mal. c'est qu'il y a autre chose. Si on prend que ça, et je n'ai pris que ça, quand on s'en fait venir, j'ai tout mis comme il faut, elle fait tout comme il faut, ben ça renvoie à un miroir abominable. On se dit, bah, je veux pas cette vie-là. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que je voulais créer, en tout cas.
Quand même.
Donc elle fait le tableau aussi,
oui. Oui. Donc ils ont un troisième enfant.
Ah oui, ça c'est parce que...
Non. Et ce troisième enfant, bon, elle s'en occupe, comme elle s'occupait des deux autres. Bon, elle fait tout, hein, très clairement. Elle dit, j'aurais aimé être une mère parfaite. C'est quoi une mère parfaite?
Ah oui, ça.
Je n'invente pas.
Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que
c'est
ça.
C'est la page, je sais plus, page 182.
Oui, parce que quand elle a son troisième enfant, elle fait les mercredis au parc avec ses enfants. Bon, troisième enfant, parce qu'après l'adultère, il fallait bien qu'elle fasse quelque chose pour sauver son couple.
Très clairement.
Et donc, elle fait la mère parfaite, mais c'est comme une exutoire, comme une autre, quoi. C'est un livre assez cruel pour la maternité, je sais pas que... Mais il y a un seul livre qui dit que c'est formidable d'être une mère, alors là, j'ai juste dit que c'est pas forcément... Enfin, par rapport à Madame Bovary de Faubert, qui a la fiche de sa fille, c'est effrayant. Elle est quand même un peu plus gentille. Donc, à la fin de la journée, elle en a marre de s'être occupée de ses enfants, donc elle craque un petit peu, et elle regrette, elle dit... Tu aurais tant aimé être une mère parfaite, de celles qui font des frites tous les samedis, et répondent... L'important, c'est qu'ils soient heureux, mon chéri, quand leur fils leur annonce son homosexualité. Être plus généreuse, rire aux mimiques de ceux qui t'avaient provoqué trois épisiotomies, les trouver formidables, ces chéris. Mais ce n'était que des enfants, et certains mercredis, après une journée entière enfermée avec eux, tu sentais sous ta peau une nervosité qui te faisait soudain hurler. J'ai dit non, pas de gâteau. Et tu les plantais là, au milieu de la purée mousseline à moitié gonflée. Vous voyez, tu les plantais là, au milieu de la purée mousseline à moitié gonflée. C'est pas, tu les plantais là... énervé au milieu du repas. Ce que j'ai beaucoup appris d'Annie Ernaux aussi, tout à l'heure j'ai beaucoup parlé d'influence, mais c'est vrai qu'Annie Ernaux, comme beaucoup d'écrivains de ma génération, en tant que femme en plus, m'a beaucoup influencée, c'est le sens du détail. Mais ça, c'est un sens qui est propre à tous les écrivains. Enfin, il faut mieux aller vers le détail, dire tu les laisses là au milieu la purée mousseline à moitié gonflée, on voit très bien la scène. Alors, du coup, le mari qui est là, je préférais que tu t'en occupes moins et que tu sois plus gentil que dire au milieu du repas. Et ça veut dire aussi la purée mousseline, c'est aussi, on rajoute, même si je voulais pas mettre beaucoup de marques. On rajoute aussi un repas industriel, on rajoute un geste, on voit la scène.
On va parler un petit peu du mari quand même. Alors,
il faut sauver les hommes quand même.
Non, vous allez voir quand même. Non, vous allez voir.
Je taquine.
Alors, vous dites, comme la plupart des hommes, François avait ce besoin enfantin, narcissique et vital de se voir dans les yeux de sa femme en deux fois plus grand qu'il ne l'était.
Ouais,
c'est vrai, vous nous voyez comme ça.
Non, mais comme en fait, c'est la faire valoir d'elle-même. Fin... Oui, non, mais ça, oui, c'est pas faux. Oui, les hommes adorent que leur femme soit...
C'est une confirmation.
Voilà, tout à fait. Mais parce qu'en fait, la manière dont est structuré l'amour entre les différents sexes, c'est qu'on pousse la femme à admirer beaucoup ce qu'elle aime. Alors que l'homme cherche souvent une compagne pour faire ce qu'il a à faire. Voilà. Du coup, elle, comme elle n'a pas déconstruit forcément ça, et du coup, l'homme qui a besoin d'encouragement est très content. Mais enfin, en général... Et quand les hommes sont gentils, et lui, il est adorable, il doit lui dire aussi, tu es formidable. D'ailleurs, à la fin, il y en a marre qui lui disent que tu es formidable. Parce que... Mais j'ai pas un passage quand même où j'ai essayé de dire que François, c'est quand même pas facile de lire avec une femme pareille. Hein.
Oui, vers la fin.
Et puis on sait pas trop, finalement, c'est lui, on peut imaginer aussi qu'il la trompe ou qu'il trouve des manières de vivre sa vie. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que lui est plus heureux. Et c'est pas avec ce genre de personnage que j'aurais pu... Déjà, je le traite moins mal qu'on traite Charles Bovary, qui est quand même... Il est juste au second plan. Voilà. Il est plus heureux parce qu'il fait sa vie, il sait pourquoi il fait ça. Il veut être heureux comme ça. Il trouve que la vie est assez difficile, il va pas chercher à midi à 14h, et du coup, il est content. Voilà. D'ailleurs, c'était marrant parce que mon bouquin, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'articles de presse sur la condition pavillonnaire, ce qui était... avec une critique, parce que je n'ai pas eu un précédent autant en tout cas. Et j'avais un article de l'Humanité et un article du Figaro. Et l'article de l'Humanité avait trouvé plein de choses formidables sur le détail, sur les stagiaires qu'on ne payait pas, beaucoup de choses sur les infrastructures, vous voyez, parce que c'est vrai, un bouquin un peu marxiste, on met les infrastructures et après les personnages sont les superstructures. Ça, ils avaient très bien vu l'Humanité et l'article de l'Humanité est très très bien. Ça me dit, en plus, c'est intéressant quand ça marche bien la critique littéraire, parce que ça vous dit un peu ce qu'on a écrit. C'est vrai qu'en des fois, on ne sait pas trop ce qu'on a écrit. On a besoin que les autres vous le disent. C'est pour ça que j'aimerais bien vous entendre après. Par contre, dans Le Figaro, il disait, mais c'est très bien. Et ils sont très bien, en fait, tous les deux. C'est juste François, il est très bien. Elle, elle n'est jamais contente, mais sinon, il n'y a aucun problème. C'est une vie parfaite. Voilà. Et donc, il disait, mais en fait, oui, François est très content. Ça, le personnage très bien. Elle, c'est juste qu'elle est acariâtre, elle est vélitaire. Mais sinon, il n'y a aucun problème.
Alors, ce François, quand même, il y a eu une Sidonie qui l'a un petit peu initié au monde des arts, du théâtre, du spectacle. Et puis, Sidonie, elle a un problème de santé, un gros problème de santé. Elle ne peut plus se déplacer. Donc, François,
souvenez-vous. Ah, c'est dur, là. Oui.
Dites-vous, pour l'accompagner au théâtre, au cinéma, que sais-je. Et, et vous lui faites dire, tu cherchais de grands discours sur l'art, tu recevais des paroles d'animal domestique.
Oui, mais ce que là, c'en est dans un passage, moi, dans la troisième partie, où, quand je vous disais, ce qui était difficile d'écrire ce livre, c'est que je voulais tout le temps être à la limite du cliché, parce que sa vie, elle-même, elle voit le bonheur comme un cliché, je veux tout à faire comme il faut, sans se dire qu'elle peut être heureuse différemment, ou sans faire ce qu'il faut par rapport au regard des autres ou à son propre autoconditionnement. Donc elle fait l'art à un moment donné. Elle fait des expos. Elle va essayer de faire de la poésie, tout ça. Comme d'habitude, elle abandonne tout parce qu'elle n'a pas de retour assez vite sur l'investissement, dans le sens où elle pense que tout de suite, en travaillant un minimum ou en faisant trois trucs, elle va tout de suite vivre des expériences, des sensations formidables. Et ça ne se passe pas comme ça. Si on veut avoir de bons retours, c'est comme quand on lit Proust. Des fois, il faut passer 300 pages à s'ennuyer pour tout à coup on soit bouleversé par la lecture de Proust parce que ça nous aura demandé un effort. Et que du coup, ça nous amène très très loin. Mais elle, elle veut tout de suite, rapidement, sans faire d'effort. Donc elle laisse tout tomber. Et ce qui lui plaît, en faisant des sorties avec sa copine Sidonie, c'est pas tant d'agrandir son âme, d'essayer de raisonner les choses, c'est que Sidonie, elle brille beaucoup. Elle fait des grandes phrases, elle l'amène dans des endroits chics, etc. Et quand Sidonie n'est plus là, elle peut plus avoir toutes les conversations sur les choses un peu prout-prout, où elle se la joue un petit peu. Et François, il vient pour une raison beaucoup plus belle et beaucoup plus simple, c'est qu'il est content d'être avec sa femme. Et elle, elle le voit à ce moment-là, elle lui dit « Je ne sais pas ce que j'en ai pensé, je suis juste content d'être avec toi au concert. » Et elle trouve ça les paroles d'animal domestique. Bon, c'est vrai que comme c'est écrit, on ne sait pas si c'est moi ou c'est elle qui pense ça.
Je n'ai rien
présumé.
Alors
que finalement, comme, oui, évidemment, c'est finalement lui qui l'aime mieux. Et il propose juste. Et du coup, elle est renvoyée, elle a fini par arrêter parce que ça n'a plus ce brillant, ce bling-bling qu'elle cherchait.
Le club de yoga, ça vous fait sourire un petit peu?
Ah, je me suis adoré d'écrire un club de yoga.
Oui.
Mais j'ai eu peur que Boris Cyrulnik me fasse un procès. Parce que... Oui, mais j'aurais pu mettre aussi plein d'autres trucs. Hein, mais j'ai un petit peu sauvé la psychanalyse parce que. Au fond, si une psychanalyse marche, ça aurait dû marcher un petit peu. Donc je dis qu'elle montait. Voilà. Mais l'humanitaire aussi, j'ai bien aimé. Parce que si elle fait tout comme de la consommation, ça ne peut pas marcher. Elle se consomme elle-même, mais elle... Enfin, après, moi, je ne donne que des fausses pistes. Je ne donne pas des solutions.
Comment vous la voyez, Chloé, par rapport à elle?
Ce qui est étrange, c'est qu'on m'a fait remarquer que la seule chose qui est un peu sauvée dans le livre, c'est l'amitié.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une amie d'enfance de sa jeunesse. Et... Elle est un petit peu brillante, elle est un petit peu une fille assez sensuelle comme ça, enfin je sais pas trop, mais finalement c'est elle c'est la relation que je parle le mieux plus. Peut-être parce que personnellement je pense que l'amitié est très importante dans la vie et que c'est, je suis pas la première à le dire. Mais aussi parce que notamment je voulais pas faire un livre déprimant, contrairement à ce que, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je voulais que ce soit un livre qui dise des choses sur la manière dont on conduit nos vies et comment on arrive à s'en sortir avec la vie, quoi. Je pense que l'écrivain c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec la vie, comment on s'en sort. Que ce soit en prenant un bouquin très réaliste comme ça, je ne pense pas en écrire un deuxième aussi réaliste, hein, aussi, parce que c'est quand même. Peut-être que ce n'est pas très drôle à écrire. Hein, même si j'écris un bouquin très déconnant, ou très fictif, ou qui va nous amener très très loin, au fond c'est pareil, comment on fait avec la vie, comment on fait avec les autres, comment on fait avec les objets. Ça c'est une question qui est plus de notre. Comment on fait avec la souffrance aussi. Et donc l'amitié fait partie des manières qui permettent d'arriver à vivre.
Vous avez une page très intéressante, on ne va pas le lire hein, parce qu'on y habite, mais sur l'île d'Abo.
Je me disais, tiens, l'île d'Abo, je vais y couper ici.
J'ai attendu la fin.
Ah oui, c'est bien. Dites-moi.
Ah mais non, je ne vais pas la lire. Alors. Vous y êtes allé, vous connaissez.
Oui.
Voilà, c'est tout.
Ah oui, enfin, puis j'ai lu les choses.
Je veux dire sur l'habitat, ouais. sur le rapport construction, ouais. Campagne.
Disons que c'est vrai que la... Je me suis renseignée aussi, mais c'est ce côté, c'est un personnage qui habite à l'île d'Abo et je voulais dire, en fait c'était difficile, je voulais pas faire un livre générationnel, je voulais pas mettre trop de marques du Benco, du Louvre Maltine, des choses qui font des Kellogg's, je sais pas, des choses qui peuvent faire, ou les marques de voitures, parce que finalement ça fait de la pub et finalement ça renvoie pas littérairement, ça crie dans la page. Par contre, ces villes nouvelles disent quelque chose du XXe siècle, et la volonté politique, on pensait qu'on avait besoin de... La population avait tellement explosé qu'il allait faire quelque chose. Ça dit quelque chose de comment on a dépossédé les paysans, comment les ingénieurs qui ont créé l'île d'Abo venaient d'Algérie. C'était la période de... Ils sont arrivés dans le bocage, exactement comme ils sont arrivés dans le désert, prenant les paysans pour des indigènes. Et puis, finalement, c'est le lieu d'une amourette avec quelqu'un. Donc c'est comme je disais au début, c'est l'infrastructure, vous voyez, qui est par-dessus. Mais du coup, il y a aussi la voiture, parce que... Il est vrai que ces gens qui sont à l'île d'Abo passent leur temps en voiture matin et soir. Et donc c'est en mettant comme ça des choses réalistes dans le livre que j'arrive à décrire à la fois un paysage de la France, pour dire très vite, ces villes nouvelles, ces autoroutes, ces voitures, sans que ça soit des bouquins trop fiches Wikipédia ou trop... en fait, c'est un bouquin qui m'a demandé beaucoup de condensation, de concentration. Et j'ai au fur et à mesure, donc je suis partie sur. J'ai jamais écrit beaucoup, j'ai pas écrit trois fois ça. Mais j'ai écrit par passage, après j'ai cousu les passages, et chaque paragraphe je l'ai resserré. Ce qui fait que je n'avais pas besoin d'en dire plus en fait. Donc, et c'est pour ça que ça choque les trois pages sur la voiture, parce que ça reste trois pages. Mais sur l'île de la bouffe, finalement, deux paragraphes suffisent à mettre une ambiance.
Donc, si vous êtes d'accord, on va lire un passage de votre roman. Je crois que vous préférez que je lise.
Moi, c'est moi, j'ai retrouvé la forme de vous parler.
C'est super. Alors, moi j'aimerais bien. La totalité des pages, ça va peut-être être un peu long. L'épisode où Emma entraîne François au casino.
Oui,
et où elle se met à rêver.
Oui, voilà. C'est un passage assez gai de la première partie. Alors, déjà, tu aurais pu. Donc, aller au casino, ouais. Elle a commencé à gagner 3 sous, donc elle commence à imaginer si jamais elle avait le jackpot. Quoi. Déjà, tu aurais pu satisfaire tes besoins les plus primaires. Acheter un caméscope, un grille-pain triple chaleur et un robot mixeur, changer de garde-robe. Dans ta chambre, installer le lit maxi du catalogue Habitat, des rideaux galonnés, un escalier refait en marbre pour orner votre séjour agrandi d'une large baie vitrée à ouverture télécommandée. Alors, tu te voyais en robe descendre dans ta cuisine. À portée de main, tu aurais 1000 fruits exotiques, 1000 desserts mirifiques, pyramides de chocolat, fraises juteuses, brillantes vanilles nappées, des crèmes, des mousses, des cakes et des tartines, les plus délicieuses tartelettes, cailles en vol au vent, gigots, écrevisses, tout te serait servi à volonté sur des plateaux d'argent. Tu n'aurais qu'à tendre la main pour saisir une coupe de champagne. Qu'un mot à dire pour résoudre un problème ? Le mot problème n'existerait même plus, puisque dans ton fantasme, tu aurais à domicile cuisinière, manucure, majordome, maquilleuse et coiffeuse, tous envers toi admiratifs et très révérencieux. Tu ne t'occuperais de rien. Il n'y aurait plus de papier, plus de factures, plus de contrariétés. Dans ta grande bonté, tu donnerais aux pauvres, après un discours ému devant d'autres mécènes, d'un grand gala mondain où tu serais la reine. Tu partirais en jet pour un riad marocain. Sur place, t'attendraient tes nouveaux amis, tous beaux et en bonne santé. Et vos conversations toujours t'élèveraient. Un matin, vous vous envoleriez vers une île lointaine où le bleu de la mer semble un saphir flottant, pendant que les sitars joueraient sempiternellement la même sérénade. Vous mangeriez longtemps. Vous boiriez des liqueurs, ça sentirait l'anis, le citron, le miel et le cumin. Assis sur des coussins moelleux, les lueurs vacillantes des bougies se reflétant dans des miroirs incrustés, vous écouteriez Mozart en Dolby stéréo. La nuit serait tombée. Seul dans le patio, tu irais contempler les lumières vibrantes dans la vallée. Il ferait doux, évidemment. Dans le lointain, un oiseau aux plumes indigo chanterait sous la lune. Un homme alors te rejoindrait. Un homme embelli par l'argent, rendu plus libre et davantage puissant. Tu te voyais tomber dans de fins canapés, faisant l'amour dans des chambres aux voilures moussues, dans des draps immaculés ou par surprise dans des avions privés. La réalité ne serait plus qu'une longue saveur en bouche, quelque chose de doux et de sucré-salé que tu dégusterais, les yeux mi-clos, habillé en Chanel en buvant du vin rouge au coucher du soleil. Un matin, ton amant t'attendrait sur un tarmac d'aéroport, tu monterais dans son automobile et vous partiriez vivre l'amour toujours. Il n'y aurait plus de passé, plus d'impôts, plus de biberons à faire chauffer. Tu aurais à jamais les mains douces et les jambes épilées. Tu ne perdrais plus tes clés, tu ne grossirais pas. Ce serait le bonheur.
Comment elle dit, Sidonie, quand elle écoute le concerto 21 de Mozart joué par Brendel, elle dit de son doigté qu'il est exquis, mais je voudrais que vous trouviez l'accent.
Ah oui, c'est exquis. C'est exquis. Alors ça, c'est très sérotien. Après, je dis « est-ce qui ?» Elle dit « est-ce qui ?» Comme ça, Sarotte, elle fait des pages entières là-dessus.
Bien, Sophie Livry, merci.
Merci à vous.
Lecteur, as-tu quelquefois respiré avec ivresse et lente gourmandise ? Sens qui remplit une église d'un sachet musque invétéré. Charme profond, magique, non gris, en le présent, le passé. Sachet encensoir de l'alcool.
une senteur montée sauvage et faux, et des habits mousselines velours tout imprégnés de sa jeunesse pure. Dégageait un parfum de fourrure.
Couleur FM 97.1 avec Sophie Divry et les passeurs de mots de Majolire, nous venons d'entendre pour finir Léo Ferré interpréter le parfum de l'album Les fleurs du mal de Baudelaire.
Alors maintenant j'aimerais bien vous entendre.
Le menu il y a déjà pas mal de temps, donc on sait plus les détails, donc c'est M.A. Il n'y a pas un moment où on lui donne son vrai prénom?
Eh non, oui c'est... Non, j'ai failli le faire en effet, mettre d'abord son prénom et après l'initialiser. Ou faire glisser, moi dans ma tête ça s'appelait Marianne ou Marie-Ange, et je voulais de toute manière que les initiales soient prononçables. Si j'avais mis H ou K, enfin K en plus ça fait Kafka, ça va pas, mais il fallait que Emma, non seulement ça faisait Emma Bovary, mais en plus ça s'est prononcé. Quand vous le lisez, vous le lisez quoi, vous vous arrêtez pas. Mais non, c'est nulle part en fait.
Et moi, pour revenir au titre, vous disiez, parce que la condition de vie là c'est même pas, ouais, c'est sûr, mais moi au début quand je l'ai vu, La condition pavillonnaire, j'ai vu que c'était un bouquin sur la prison.
Ah oui, c'est bon.
Après, quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que pas du tout. Ça n'a rien empêché au plaisir de la lecture, mais n'empêche, je me suis demandé si c'était quand même pas un peu fait exprès.
Non, je vous avoue, c'est vrai qu'après, il y avait beaucoup de titres, en effet. Enfin, c'est vrai, c'est juste que vous dites, mais j'y ai pas du tout pensé. Après, évidemment, quand même, plus, il y avait le poisson dans l'eau. L'enfermement. Après, c'est toute une histoire d'enfermement, de comment sortir. Elle se tape au barreau du bocal. Mais non, c'est pas fait exprès. Je pensais que mon pavillonnaire était plus... Moi, comme j'avais dans la tête depuis l'écriture du livre, je me rendais pas compte que, comme vous avez dit, en effet, il est un peu moins usité aujourd'hui.
J'ai lu le livre il y a quelques mois, donc ça fait partie des meilleures lectures de l'année 2014, je pense.
Merci.
J'étais charmé. Je retrouve le même charme à nouveau en vous écoutant parler, en retrouvant les passages du livre. Et moi, ce que je voulais dire, c'était que c'est un livre, très personnellement, qui me correspond à la fois dans la durée, puisque je suis un peu plus âgé que vous, mais si je commence ma vie professionnelle dans les années 75, c'est à peu près les mêmes dates que Eva. Et en fait, peut-être que je décède en 2025, quand même, le cursus est à peu près respecté, donc ça me correspond au point de vue date, ça me correspond peut-être au point de vue caractère, c'est peut-être une forme d'insatisfaction. Donc, je me suis complètement retrouvé, bien qu'homme, je suis complètement retrouvé dans le personnage, et c'est un très grand plaisir. Et ce que je voulais souligner, là, c'est pas une question, mais c'est une remarque, c'est vous, plus jeune, capable d'embrasser un peu une vie complète avec à la fois ses illusions au départ, ses désillusions, ses réalismes, sa prise de conscience qu'après tout, c'est notre condition qu'on doit plus ou moins accepter et faire avec.
Mais merci déjà de dire ce que vous dites, parce que c'est vrai que je préfère, beaucoup d'hommes m'ont dit ça, justement, que hommes ou femmes, ils se reconnaissaient dans cette manière de vivre sa vie, parce que je voulais pas que ce soit un bouquin que pour les femmes, même si évidemment... notamment la phrase que vous avez citée, c'est des expériences que je peux importer dans le livre parce que ça décentre un peu. Mais... Et c'est vrai que je m'attendais aussi, en écrivant ça pour le coup, je m'attendais à ce qu'on me dise, mais comment tu peux savoir tout ça, ou comment tu peux faire ça à 30 ans, 35 ans. J'avais 30 ans quand j'ai commencé à l'écrire, 31. Et je pense qu'en fait, on apprend beaucoup à vivre par les livres. Notamment moi qui ai beaucoup lu Annie Ernaux, elle raconte beaucoup ce que c'est que son couple, la femme gelée, tout ça. Même quand je lis Deuxième Sexe, des livres de... En fait, on est prévenu de la vie par les livres. C'est pour ça qu'il faut faire lire les jeunes. Parce que ça leur apprend, non seulement... ça peut leur mettre des mauvaises idées dans la tête. Comme Emma Bovary, hein, qui croit que l'amour, ça va être un conte romantique. Mais ça aide à comprendre et avoir à comprendre comment ce qui va se passer et à mieux maîtriser sa vie. J'ai capté, comme tout artiste éponge tout, capté des choses sans m'en rendre compte. Voilà. Bon, les passages, évidemment, sur la jeunesse, c'est plus facile. C'est à peu près ce que je raconte de mes études à Lyon. Après, voilà, j'ai pris dans les livres. Bah, notamment pour la vieillesse, j'ai de plus en plus pris dans les livres. Parce que j'avais beau avoir vu ma mère accompagner sa propre mère jusqu'à la mort, j'ai quand même plein de choses que j'avais besoin sur les détails. Mais c'est comme, en même temps, c'est vrai que je pense que c'est un peu le travail que de l'écrivain. Là, sur la Côte 400, tout le monde a cru que j'étais bibliothécaire. Donc bon, bon, je prends ça. C'est bon signe tout ça.
Merci à Sophie Divry, à Majolire, aux passeurs de mots. Merci à Dominique pour cet entretien. Merci Laurent, merci Dan et à bientôt.
À bientôt, au revoir.